12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Nous parlons théâtre ce midi dans ce débat critique consacré aux adaptations de grands textes classiques. Un défi, une provocation, une prouesse, un échec. Personne ne sort indifférent des spectacles dont nous débattons. L'Italien Romeo Castellucci confie Bérénice de Racine à Isabelle Huppert et la Brésilienne Christiane Jatahi a choisi Clotilde Esme pour incarner Hamlet de Shakespeare.
Et on en parle avec vous, Philippe Chevillier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service culture des Échos et on en parle avec vous, Victor Inizan, bonjour.
Bonjour Géraldine. Bonjour.
Vous êtes docteur en études théâtrales, dramaturge et critique. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Nous commençons ce débat critique avec Bérénice d'après Racine, mise en scène par Romeo Castellucci avec Isabelle Huppert. C'est jusqu'au 28 mars prochain au Théâtre de la Ville à Paris.
Eh bien, Titus, que viens-tu faire ? Bérénice t'attend. Où viens-tu, téméraire ? Tes adieux sont-ils prêts ? T'es-tu bien consulté ? Ton cœur te promet-il assez de cruauté ?
Que faut-il attendre d'une adaptation d'un grand classique de Racine, Bérénice, incarnée sur la scène du Théâtre de la Ville par une grande comédienne, Isabelle Huppert, dont on vient d'entendre la voix, et revisitée par un grand metteur en scène, Romeo Castellucci, connu pour son talent de plasticien et de créateur d'ambiance et d'atmosphère, on vient de l'entendre également. Comme attendu, Castellucci n'a donc pas repris de texte tel quel, il n'a gardé que les monologues de Bérénice, un choix dont la conséquence première est de laisser Isabelle Huppert assez seule sur scène. Vous allez nous dire dans quelles circonstances dans un instant. Elle n'a personne à qui parler, à qui s'adresser, puisque les autres personnages, masculins notamment, Titus et Antiochus, restent muets et n'apparaissent sur scène que pour un geste chorégraphique. Comme dans une composition picturale, Isabelle Huppert brise la pénombre pour apparaître sur scène en compagnie d'objets du quotidien, un radiateur par exemple, ou un lave-linge, habillé, notamment, il faut le dire, la comédienne, pas le lave-linge, par les sublimes costumes d'Iris von Herpen, dont on a déjà parlé ici pour son exposition au Musée des Arts Décoratifs. Vous pouvez les revoir et les réécouter sur le site de France Culture. Revenons-en à la question d'origine. Que fallait-il attendre de cette adaptation de Bérénice de Racine par Romeo Castellucci avec Isabelle Huppert ? Victor Inizan, avez-vous été séduit ou déçu ?
Bon, ben moi, je dois bien dire que j'ai été séduit. Et ce qui m'amuse avec ce spectacle, je crois, c'est que il nous fait revenir à ces vieux débats assez intemporels, finalement, d'adaptation des grands classiques qui, à mon avis, ont jamais été si pertinents que ça. Mais là où c'est, juste, c'est que il y a quelque chose, je crois, qui dérange avec ce spectacle, qui a dérangé probablement parce que, évidemment, comme vous l'avez dit, il y a Isabelle Huppert au plateau et on attendait peut-être justement une interprétation magistrale du texte qui ici, comme vous l'avez dit, et en plus dans le désordre, non seulement elle est toute seule, mais en plus les textes sont pas dans l'ordre. Et aussi peut-être parce que c'est la première fois, c'est pas la première fois que Castellucci s'attaque au répertoire, hein, il avait déjà monté Eschyle, Dante notamment, mais c'est la première fois, je crois, qu'il s'attaque au répertoire français. Et peut-être qu'il y a un inconscient là, un côté, j'allais dire un peu plus sacré, un côté un peu patouche à Racine qui se passe ici dans ce spectacle et qui va déranger. D'autant plus que voilà, c'est quand même la figure d'un metteur en scène italien qui va demander à une actrice française un petit peu d'aller renier son histoire, d'aller renier ses classiques quoi. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il fallait s'y attendre. En même temps, Castellucci, c'est un metteur en scène d'ambiance, d'atmosphère, ça l'a toujours été, et il a toujours plus ou moins violenté, entre guillemets, les textes classiques qu'il a adaptés. Et c'est vrai que c'est un peu pareil pour Bérénice, d'autant plus que une des particularités de Bérénice, c'est vrai, c'est qu'il y a particulièrement pas de rebondissement dans cette pièce. Et c'est ça qui, à mon avis, d'ailleurs, la rend aussi belle et aussi forte. Et parce que ce côté hiératique, ce côté très fixe, justement, lui sied assez bien. Alors, comme on a dit, c'est vrai que il y a seulement les parties de Bérénice, hein, dans le spectacle, avec, comme je l'ai dit, du désordre, des effets aussi de la réverb, du vocodeur, etc.
La voix d'Isabelle Huppert est modifiée par moment.
Oui, exactement. Et à mon avis, je crois que c'est un peu à partir du moment où on s'est dit, on ne va pas comprendre le texte. qu'on peut commencer à réfléchir sur le spectacle.
Qu'attendiez-vous, Philippe Chevillier, en allant voir cette adaptation? Est-ce que vous vous disiez, voilà, de toute façon, ce ne sera pas Bérénice de Racine, donc voilà, je dois rentrer dedans et me laisser porter par la proposition du metteur en scène?
Oui, je m'attendais à peu près à ça. Alors, en préalable, c'est vrai que moi aussi, c'est pareil. Je me dis, il n'y a pas de texte sacré, on peut faire ce qu'on veut. Deuxièmement, je pense aussi qu'il y a eu... quand même, ce spectacle est arrivé avec une très mauvaise réputation à Paris. Et je pense que la première qui a été au Domendo à Montpellier n'était pas prête du tout. Donc moi, ce que j'ai vu est quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que j'ai toujours un petit problème avec Castellucci. Moi, personnellement, ça, je trouve que c'est un visionnaire. Je suis plus gêné par son côté maniéré ou le propos qui me semble parfois un peu nébuleux et ne nous emmenait pas aussi loin qu'il ne le voudrait. Mais je suis souvent marqué par ses spectacles. Celui-là, j'ai été beaucoup moins marqué. Et on peut parler d'abord, effectivement, de ce texte. Et c'est vrai que si on veut voir... Il rend hommage lui-même au texte de Racine. Je pense que le texte de Racine, en tout cas son harmonie, est tué dans la mesure où où il n'y a que les monologues qui sont effectivement dans le désordre. Que moi, je n'ai absolument pas entendu le texte. Pratiquement jamais. On entend très bien. On entend très bien au sens propre. C'est-à-dire que c'est avec le micro.
C'est audible.
C'est audible. Mais c'est vrai que je l'ai pas entendu. Alors après, on fait abstraction de ça et on se dit bon, voilà, on voit un spectacle. C'est vrai que la représentation, la présence d'Isabelle Huppert sur scène dans des images qui sont fortes, peut-être pas aussi fortes que d'habitude, mais enfin, il y a quand même de très belles images avec le son de Scott Gibbons. Tout ça, ça donne une vision assez belle. Ce qui me gêne, c'est parce que quand même Castellucci, il a traité la deuxième partie, l'amoureuse solitaire, mais de l'autre côté, il y a la raison d'État et qui est montrée par des cœurs derrière les rideaux qui s'agitent, un peu comme dans une boîte de nuit. Moi, j'ai trouvé que c'était assez pauvre et notamment l'interprétation, parce qu'on retrouve Titus et Antiochus, donc Titus qui va abandonner Bérénice à son sort, et Antiochus qui est ce roi qui est amoureux en secret de
et que Bérénice repousse.
Et que Bérénice repousse. On les voit sur scène danser. Un peu, je trouvais que les danses n'étaient pas très bonnes, et toute la représentation donc de cette face, de cette vision un peu guerrière du pouvoir, etc., sur scène, avec des images de un petit peu de danse ou de rite, m'ont semblé assez faibles. C'est pourquoi je ressors de ce spectacle à la fois avec l'impression qu'il y a quand même des moments où ça frappe, parce que on a quand même Isabelle Huppert sur scène qui a sa présence, et puis on a Castellucci quand même un faiseur d'images, mais à mon avis c'est quand même pas son spectacle le plus réussi.
Alors une fois qu'on a accepté qu'on n'allait pas assister à Bérénice de Racine, et qu'on se laisse donc porter par ce qui nous est proposé, Victor Inizan, qu'est-ce qui vous a, vous, plu? Et peut-être dites-nous ce qu'on voit, à quoi on assiste en réalité. À un jeu d'Isabelle Huppert? C'est elle qui est mise sur un piédestal?
Ce qu'on voit, je crois, c'est banal à dire, mais c'est un espace mental dans lequel Bérénice est. On l'a beaucoup dit pour ce spectacle, on parlera du spectacle de Christiane Jataï tout à l'heure, où je crois qu'on l'a peut-être pas assez dit que c'était aussi un espace mental. Mais là, en tout cas, c'est vrai que c'est assez évident. Et dans cet espace-là, on a, j'ai envie de dire, tout simplement, les étapes de l'agonie, parce que là, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le sombre, mais de l'agonie sentimentale, du moins, d'une femme qui se déroulerait comme ça en plusieurs points. Alors, je schématise un petit peu, le premier, je crois que c'est l'enfermement, l'isolement.
Accentué par la scène, l'ambiance.
Oui, voilà, des rideaux très sombres, qui enferment, qui isolent Isabelle Huppert. Alors, ces rideaux se lèvent, et derrière des rideaux, il y a d'autres rideaux, qui cette fois sont, eux, translucides, et derrière lesquels on va justement voir ces cœurs dont parlait Philippe, qui, voilà, toutes les machinations un peu du Sénat. Ce qui fait qu'en fait, on se dit, on va aller vers un peu plus de lumière, mais finalement c'est juste pour voir que le Sénat, donc qui est celui aussi qui verrouille l'amour entre Bérénice et Titus, donc bon, pas tant que ça de lumière. Et puis à la fin, en plus, ces mêmes rideaux reviennent et se referment, donc on comprend bien que finalement l'espoir n'existe pas tant. Et puis on a tout un ensemble en fait de scènes effectivement qui viennent souligner la solitude effectivement d'Isabelle Huppert, mais aussi donc de Bérénice. C'est un peu la même chose ici. Vous avez parlé de cette fameuse ce fameux radiateur qui vient représenter Titus à un moment, mais qui n'a pas l'air de chauffer beaucoup. On a une machine à laver aussi. Bon.
Qui lave, bref. Non ?
Qui lave pas très bien.
Pas très bien.
Pas très bien, parce qu'il y a quand même du sang qui reste. On a carrément l'ordre de Titus qui demande à Bérénice de partir, et vidéo projeté. Donc c'est pareil, c'est très froid. On a donc toutes ces machinations derrière des sénateurs. Ce qui fait que ce qu'on voit au plateau au bout d'un moment, à force de regarder cet enfermement, cet isolement, c'est le dépérissement de quelqu'un. C'est vraiment le dépérissement d'une figure. Isabelle Huppert se retrouve voilà en figure de mendiante. À la fin, on a une très belle scène. D'ailleurs, je trouve avec un tableau de fleurs qui fanent derrière elle, ce qui fait que et je rejoins, enfin, je veux quand même dire que je rejoins partiellement Philippe sur le fait que certaines images sont un peu moins fortes que d'habitude, et peut-être aussi certaines images sont trop castelloutiennes, j'allais dire, au sens où il y a certains motifs ou qui sont un peu évidents, je pense
déjà
notamment.
Vu, vous voulez dire qu'on a déjà vu dans d'autres mises en scène.
Oui, c'est-à-dire, je pense par exemple à cette espèce de mention de la composition physique. Alors, je sais pas si c'est le bon mot physique, physiologique du corps humain qui ouvre le spectacle, qui est une sorte de signature un petit peu. Voilà, on se dit bon, on est bien ce Castellucci. Bon, c'est pas inintéressant, c'est un peu déjà vu. Mais cela dit, je crois quand même que cet espace mental qui le met en forme, qui est assez simple en fait. C'est-à-dire que c'est juste ça. C'est juste un espace mental. Eh bien, moi, ça m'a suffi.
Philippe Chevillier, si on parle de ce qu'on voit sur scène, c'est-à-dire Isabelle Huppert en Bérénice, c'est osé, c'est très exigeant ce que lui demande Castellucci, en fait.
Alors, c'est très exigeant. Moi, je partais sur l'idée peut-être qu'on allait voir une mise au premier plan, comme ça, d'Isabelle Huppert, de façon la reine qui serait... En fait, moi, je trouve qu'elle est, pour le coup, courageuse, et on retrouve ce qu'il y a chez elle, ce désir de faire du théâtre avec des grands metteurs en scène, et elle fait vraiment ce qu'il lui dit. Parce que ça ne la sert pas forcément du point de vue du jeu. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur autotune, sur voilà, avec vocodeur,
ces machines qui modifient la voix.
Et quand elle ne modifie pas la voix, c'est un jeu qui est très très emphatique, qui fait penser un peu à du Sarah Bernhardt. On est dans le théâtre Sarah Bernhardt, pourquoi pas. Et c'est quand même pas une performance de jeu extraordinaire d'Isabelle Huppert, mais c'est pas de sa faute, c'est lui qui lui commande. Moi, je trouve que c'est voilà, mais je trouve ça assez courageux qu'elle accepte de faire ça et sa présence est évidente. Par ailleurs, moi je reviens sur ce que dit un peu Victor, ce qui m'en gêne un peu dans ce qu'il dit sur cette solitude de Bérénice, oui, c'est dans la pièce. Je veux dire, sans jouer les racks, si on joue Racine, cette solitude, et qu'on la voit face à ses vis-à-vis, on la ressent peut-être encore plus. Donc il n'a pas creusé une nouvelle
vision, oui.
Et alors, ce qui est amusant, on pourrait peut-être dire sur la réaction du public, c'est que on a un public alors qui est, en tout cas, au Théâtre de la Ville. Moi, j'ai remarqué ça. C'était le soir de la première. Alors, il y avait les gens qui en pamoison, donc qui applaudissaient, les autres qui huaient, une partie des gens qui partaient sans même attendre les rappels, et puis une autre qui, moi, j'étais avec des amis qui m'ont dit, mais finalement, j'ai pas compris grand-chose ou j'ai pas trop aimé, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Donc c'est un spectacle quand même qui est marquant, parce que c'est Castellucci, parce que c'est Isabelle Huppert, encore une fois. Simplement, moi je me demande si c'est pas quand même un peu fabriqué tout ça, un côté un peu chic et choc, de dire on met Isabelle Huppert avec Castellucci, et qu'il y a peut-être pas autant de désir que ça, du côté du metteur en scène, de faire du Racine. Mais peut-être que je me trompe complètement, il a peut-être tombé de sa chaise si jamais il nous écoute. Mais moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ce désir fou de traiter cette œuvre, que c'était plutôt un bel exercice de style, voilà.
Un bel exercice de style qui ne laisse donc pas indifférent, ça on l'a compris. Philippe Chevillier, Victor Inizan sur peut-être la performance d'Isabelle Huppert, et puis sur l'idée de est-ce qu'il veut faire du Racine ? Est-ce qu'il y a quelque part dans ce qu'il présente aussi la tragédie ?
Oui, c'est probablement une question d'horizon d'attente, en vérité. C'est vrai que Isabelle Huppert a probablement son public, et j'aurais tendance à croire qu'effectivement, les gens qui sont venus seulement pour Isabelle Huppert ont probablement dû passer un pas le meilleur moment de leur vie. Et ceux qui peut-être sont plus amateurs de Castellucci, eux, étaient peut-être un petit peu plus préparés, d'où aussi l'espèce de scission qui se passe à l'intérieur de la salle. Pour revenir sur la performance d'Isabelle Huppert à proprement parler, je voudrais quand même parler, sans trop spoiler, mais un peu de la fin, pour aussi aller un peu contre ce que dit Philippe sur la performance d'actrice, puisque donc il y a un tulle qui sépare le public du plateau, et il y a un moment où voilà ce tulle se lève, et là on a une phrase que je trouvais extrêmement forte, d'autant plus de la part d'une star comme Huppert, qui dit ne me regardez pas, et qui répète comme ça ne me regardez pas, et ce ne me regardez pas pareil passe à travers une boucle d'effets que je saurais pas nommer, mais qui devient de plus en plus artificielle. On a de plus en plus l'impression, ça m'a fait penser, alors c'est vraiment très contextuel et ça a rien à voir, moi, à Dune, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle nous donne un ordre à l'esprit et que vraiment elle nous empêche complètement de la regarder, si bien qu'on a presque envie de détourner pour de bon le regard à la fin. Et je trouve que la force, vraiment, en fait, l'endroit d'humiliation dans lequel Bérénice est à la fin, c'est-à-dire elle qui est vraiment réduite à rien, qui se dévoile vraiment face au public sans rien, sans effet, etc. Je trouve ça vraiment très fort et je trouve vraiment la fin glaçante et assez magnifique.
Que le jour recommence et que le jour finisse. Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus.
Bérénice, d'après Racine, mise en scène par Roméo Castellucci avec Isabelle Huppert, c'est jusqu'au 28 mars au Théâtre de la Ville Sarah Bernhardt, puis en tournée à Milan, Anvers, Clermont-Ferrand ou encore Rennes.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et maintenant, on parle d'Hamlet, d'après Shakespeare, mise en scène Christiane Jatahi, c'est jusqu'au 14 avril au Théâtre de l'Odéon.
Tu es un homme! Ne prends pas plus de temps que compter jusqu'à 1. Des funérailles au mariage, par souci d'économie, Horatio. Les terrines chaudes des funérailles pourront être servies froides aux tables du mariage. Maintenant, il n'est pas nécessaire de dormir ou de rêver pour regarder au fond des ténèbres où les choses prennent forme. Et pour voir dans le puits de l'esprit, moi parfois un garçon, moi parfois une fille. Et les eaux déchaînées ou d'immenses vagues emportent tout.
Je vous présente Hamlet dans cette adaptation de la metteuse en scène brésilienne Christiane Jatahi. Hamlet est une femme de la quarantaine qui évolue dans notre présent, 4 siècles après celui de Shakespeare. Une ambition accentuée par la présence de la vidéo sur le plateau, l'autre marque de fabrique de l'artiste. Gertrude et Claudius vivent donc dans cet appartement, tout ce qu'il y a de plus banal, dans une déco assez moderne, canapé, télé, cuisine et un intérieur qui est donc bien de notre époque. Le texte de Shakespeare, lui, a été retravaillé, retraduit, entrecoupé de chansons de Nina Simone, Sinéad O'Connor ou Prince, et de références à des œuvres contemporaines. Hamlet parlait de tuer. L'intrigue reste donc bien la même. Faut-il, oui ou non, se venger? Mais le virage féministe est accentué et assumé, puisque la metteuse en scène parle d'un Hamlet, je cite, en lutte contre la violence patriarcale. L'intrigue se joue donc alors, désormais, entre un trio de femmes, Hamlet, Gertrude et Ophélie. Philippe Chevillier, qu'avez-vous pensé de cette adaptation?
Alors moi, je l'ai beaucoup aimé. Alors encore une fois, on peut recommencer. Ce qu'avait dit Victor au départ, on peut travailler, on peut adapter des textes classiques, on peut les tordre, surtout Shakespeare, parce que Shakespeare, il part dans beaucoup de directions. Et surtout cette pièce, puisqu'elle a quand même pas mal d'énigmes, d'atermoiements. Et en plus, si on regarde bien la genèse de cette œuvre, d'abord, c'est inspiré de pas mal de pièces. Et puis, il y a même des spécialistes qui disent que finalement, Shakespeare ne l'a jamais vraiment achevé. Donc, allons-y. Christiane Jatahi a voulu en faire une version féministe et elle a mené au bout sa détermination pour y arriver. On a donc dans ce texte, qui la pièce de Shakespeare raccourcie, on a 90% de texte de Shakespeare et 10%, mais ces 10% suffisent quand même à transformer l'œuvre. Alors, Hamlet est une femme. Le rôle a été joué d'ailleurs par beaucoup de femmes, y compris par Sarah Bernhardt. Et ce qui est amusant, c'est que je pense que c'était pour de mauvaises raisons, parce que dans le texte de Shakespeare, le personnage d'Hamlet est tellement, justement, pas dans le cadre du mâle dominant qui veut se venger tout de suite, qu'on s'est dit, bon, une femme peut jouer ça. Et là, c'est dans cette brèche que rentre Jatahi, finalement, pour dire, eh bien, ces atermoiements, ça va être Hamlet, son fantôme aujourd'hui, qui est devenu une femme, comme dans Orlando de Virginia Woolf. Pas pourquoi, mais elle est devenue une femme. Et 4 siècles après, son fantôme essaie de revisiter son passé et aider d'Ophélie et Gertrude, qui ne sont plus des personnages secondaires et fades, elle va se révolter contre ce pouvoir patriarcal, sans pouvoir vraiment y toucher parce que la tragédie est là. Mais néanmoins, elle ouvre quelques portes, notamment pour l'avenir, pour Ophélie, qui à un moment donné carrément s'en va. Moi, je trouve qu'elle a mené jusqu'au bout, que les parties écrites, en plus, sont assez fines. J'étais assez surpris de voir, notamment, il y a un monologue d'Ophélie qui est assez joli, et puis le monologue de la fin. Et puis surtout, il y a une beauté sur le plateau. Hein, c'est vraiment esthétiquement, je trouve ça très fort. Et pour finir, on en reparlera. Il y a l'interprétation qui est vraiment hors norme de Clotilde M, qui a vraiment une actrice pour moi extraordinaire et qui montre tout son talent sur ce rôle qui est immense.
Montons sur le plateau, Victor Inizan. Qu'est-ce qu'on y voit? On est donc dans cet appartement très, très contemporain. Et pourtant, il y a, et vous l'avez dit, Philippe, il y a ces fantômes qui viennent se rappeler. Ça, peut-être, je sais pas s'il faut donner des clés. Que représentent les parties filmées par rapport aux personnages que l'on voit sur le plateau?
C'est vrai que c'est un spectacle qui est très complexe, c'est peut-être la première chose à dire, et je crois, à mon avis, justement, c'est toute cette complexité qui lui sied très très bien. Je trouve que c'est un spectacle qui est assez époustouflant d'intelligence, et il y aurait énormément de choses à dire dessus. Je crois que, c'est un spectacle, c'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais j'allais dire qu'on a mal compris à plusieurs endroits, probablement parce que vous parlez des éléments de modernité. Je crois qu'on a un peu pris la modernisation d'Hamlet au premier degré dans ce spectacle, c'est-à-dire qu'on s'est dit « Ah là là, ils ont encore mis une scénographie moderne, canapé, etc. Il y a des parties filmées tout le temps, il y a de la musique pop que vous évoquiez, des passages écrits au plateau, etc. » Et en fait, on a peut-être cru que c'était ça le propos du spectacle. Or, je crois que ces éléments sont intéressants non pas pour ce qu'ils sont, mais vraiment pour ce qu'ils masquent. C'est-à-dire, et ce qui masque, c'est quoi? C'est la même tragédie, le même patriarcat qui se répète et dont on essaye de sortir. Et ce qu'on voit en fait dans le spectacle, c'est justement que ce soit la vidéo, la musique, la scénographie, les lumières, c'est la mise en crise permanente de tous ces éléments qui sont précisément superfétatoires, qui sont superflus en fait. Et la deuxième chose peut-être qui est j'allais dire encore plus problématique, encore plus grave, c'est que je crois que s'il fallait résumer, c'est que je crois que dans ce spectacle, on a peut-être aussi un peu pris le moyen pour la fin, c'est-à-dire qu'effectivement, sur le papier, Hamlet est devenu femme. Et bien sûr, on se dit, oh là là, donc ça va être ça aussi. Donc non seulement elle actualise, mais dans cette actualisation, Christine Jatahi va jusqu'à remplacer Hamlet par une femme. Et là, ça me paraît quand même important de dire que, ça n'est pas le propos. Hamlet devenu femme, ça n'est pas le propos du spectacle. C'est une expérience de pensée qu'elle fait, c'est une hypothèse en fait. C'est simplement une hypothèse en disant qu'est-ce que ça fait à la pièce si finalement Hamlet devient une femme.
Et ça ne fait pas disparaître les hommes, ça ne fait pas disparaître ces personnages-là, ces rôles-là. Ça donne peut-être juste plus de force aussi aux autres personnages. Philippe a commencé à le dire, notamment Gertrude et Ophélie qui prennent du coup dans ce spectacle plus de place, de l'ampleur en fait.
Oui, complètement. Je crois qu'en fait, ce que ça fait, une des premières choses que ça fait, c'est que ça reconfigure complètement les rapports, et notamment ça crée une sorte de trio féminin, du coup, entre Hamlet, Ophélie, et puis, dans une certaine mesure, aussi le personnage de Gertrude, de trois personnages qui sont particulièrement patents. Je voudrais dire un mot sur Ophélie, notamment, qui est complètement délaissée dans le spectacle, je veux dire, à deux titres. Elle est délaissée par Hamlet, en réalité, donc ça, c'est la pièce. Et puis, elle a aussi un rôle un petit peu plus périphérique. D'ailleurs, elle est jouée par une actrice portugaise qui parle portugais dans le spectacle. Elle est vraiment étrangère, dans tous les sens du terme, dans ce spectacle. Et c'est là où je crois que c'est quand même très fin. C'est que Ophélie est délaissée tout du long, donc voilà. Et c'est pourtant elle qui va, dans le monologue dont parlait Philippe, donner la solution à la fin, c'est-à-dire il faut quitter le théâtre, il faut sortir du théâtre, il faut arrêter avec avec ce cycle de la vengeance. En fait, voilà. Et elle a une sorte d'appel un peu révolutionnaire, et le fait qu'elle ait été laissée pour compte pendant si longtemps, quand elle revient, ça crée une sorte de, je trouve, de force dramatique qui est assez extraordinaire quand même.
Philippe Chevillier, sur là où on nous emmène, effectivement, dans la tête d'Hamlet, dans sa conscience, dans son inconscient, où on vit justement aussi toutes ces injonctions des fantômes, tout ce qui se passe là, c'est véritablement là que se joue le spectacle, pas sur est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme.
Oui, il y a, ce qui est important, c'est qu'on a, le fait qu'elle soit une femme nous fait voir différemment le spectacle.
Mais c'est le point de départ, je veux dire. Ça, c'est... Et puis voilà.
Et au départ, c'est vrai que les gens, je pense, sont un petit peu perdus parce qu'ils se demandent ce que font ces gens en habit d'aujourd'hui. Et puis on comprend quand même parce qu'il y a petit à petit, on voit que Hamlet enquête. Elle est là, elle regarde les vidéos et qu'elle enrage parce qu'elle dit mais pourquoi faut-il vraiment être. C'est la phrase qui revient souvent. Faut-il être cruel pour être juste? Et elle enrage, mais elle ne peut pas lutter contre la tragédie. Elle ne peut poser que des jalons pour l'avenir. Et ce qui est fascinant, c'est cette sortie d'Ophélie, effectivement, qui brise le quatrième mur, qui s'en va de la pièce et qui dit, mais moi, les femmes humiliées, il y en a marre, je m'en vais. Il faut dire aussi que je pense que les amateurs de Shakespeare et de beaux jeux sont servis, encore une fois, parce que Clotilde M, notamment, très vite, et je crois que c'est placé un petit peu plus tôt dans la pièce, il y a ce fameux monologue « Être ou ne pas être ». Et moi, personnellement, c'est un des plus beaux que j'ai vus, avec une forme de douceur, une prise à partie du public. En plus, pas facile, parce qu'on vient de sortir de projections sur des transparents qui sont absolument extraordinaires, etc. Le rideau tombe et elle se retrouve face au public. Et à la fin, la façon dont la pièce, le combat qui est un petit peu, où tout le monde se tue à la fin, est résumé. Et très joli parce que en fait ça fait penser un peu au monologue de la mouette, parce que dans la mouette il y a le personnage, l'héroïne qui dit non ce n'est pas ça, non, je suis la bête, non ce n'est pas ça, et Clotilde elle dit non je sais ce n'est pas le texte, plusieurs fois il y a ce parallélisme et l'écriture est très belle, et elle est absolument aussi bien dans ces moments où elle enrage, où elle s'énerve, où elle se bat contre justement ces hommes, ce patriarcat et cette violence, et ces moments de douceur, on a vraiment quand même, au bout du compte, on sort de cette pièce avec un Hamlet ou une Hamlet de référence.
Une Hamlet. Donc, un dernier mot, Victor, pour terminer sur Clotilde M.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, je trouve que l'interprétation est assez magistrale. Je veux juste terminer en disant un mot sur la vidéo pour aussi répondre à votre question et en insistant sur le fait que, bon, ça a toujours été assez magistral, la vidéo chez Jatahi, mais là, ça l'est peut-être encore plus que d'habitude. Et je crois qu'il y a une intelligence vraiment dans ce spectacle qui est qu'on a l'impression qu'on est dans un film, dans le spectacle, qu'on a oublié qu'on est un peu dans ce film-là, et qu'Hamlet, elle cherche à sortir de la fable, et comme l'a bien dit Philippe à la fin, on y arrive à sortir, et ça c'est très beau.
Jusqu'au 14 avril au théâtre de l'Odéon, Hamlet d'après Shakespeare, mise en scène par Christiane Jatahi, puis ça part en tournée notamment en juin à Lyon et à Brest, ensuite à l'automne ainsi qu'à Clermont-Ferrand. On vous met toutes les dates évidemment sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à tous les deux, Philippe Chevillet, on vous lit dans les Échos, Victor Hénizan, vous êtes directeur en études théâtrales, dramaturge et critique. Ce débat est à réécouter sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France.